Alors, ce que je vais faire, puisque vous découvrez les textes, c'est prendre le parti de vous les lire à chaque fois, comme ça vous en profiterez mieux. Et si vous avez vous-même une Bible, vous pourrez. Oui, Christiane.
Dieu est-il créateur? Et la deuxième phrase,
interrompue
par la chute.
Ah oui. Alors, première chose, en quoi Dieu est-il créateur? Et que crée-t-il et comment, en fait? Qu'est-ce que crée? Parce qu'il y a une très grosse ambiguïté à ce sujet, sur ce qu'est créer, sur ce que signifie créer, surtout quand c'est Dieu qui en est le sujet. Donc, je vous lis le premier texte, c'est le livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 1 à chapitre 2, verset 1. Ce que je vous suggère, par exemple, comme c'est une feuille polycopiée, vous pouvez, avec votre stylo, souligner à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous semble un peu curieux ou qui est pour vous l'occasion d'une question. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. C'est pas le sec terre en un seul mot, mais le sec et donc ce qui forme la terre. Et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien, voilà ce texte tout à fait connu, mais souvent connu, j'allais dire, de façon assez superficielle, et puis souvent connu sans avoir le texte sous les yeux. Et là, l'idée, ça va être de plonger un peu dans le texte. Christiane.
Dieu dit.
Oui.
Il crée par la parole.
Oui. Oui.
Il dit.
Il ne fait que dire d'ailleurs.
Il dit.
Oui.
Oui, mais une fois que c'est créé, il arrange les choses, il les façonne.
À voir. Avant d'arriver au dire, il y a des petits éléments qui sont intéressants à voir dès le deuxième verset.
La terre est informée vite, ça prouve qu'il y avait déjà quelque chose.
Oui, absolument. On ne part pas de rien, mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté à ce sujet. On a d'autres tables, si vous voulez, on peut tout à fait installer des tables là. Sinon, il y a une place à côté de François, évidemment. Vous pouvez aussi trouver une toute petite place à côté de moi. Et je pense qu'il doit y avoir encore ici quelques textes bibliques disponibles. Voilà. La terre était informe et vide. Certains pensent qu'effectivement, c'est le rien qui est au départ de la création et que Dieu crée à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo. Alors, c'est vrai qu'il est bon de faire un tout petit détour par cette question de la création ex nihilo parce que c'est ce qui a souvent séparé les chrétiens. Parce qu'en fait, la conception traditionnelle, c'est justement une création à partir de rien, donc ex nihilo, pour deux raisons. La première raison, elle est, je dirais, théologique. Si Dieu est tout-puissant, alors nécessairement, il est à l'origine de tout, et donc c'est lui qui va fabriquer toute chose. Et donc, la création du monde par Dieu doit démarrer de rien, en tous les cas, rien d'autre que Dieu lui-même. Ça, c'est le motif théologique. Si Dieu est tout-puissant, dans ce cas-là, il part de rien. Il ne fait pas avec quelque chose qui serait déjà présent. Sinon, ça voudrait dire, à la limite, qu'il y a quelque chose d'antérieur à la décision de Dieu. Vous voyez ? Ça, c'est le motif théologique. Il y a un motif qui est scripturaire. Alors, le motif scripturaire, ça veut dire un élément que l'on trouve dans un texte, mais ce n'est pas un texte biblique au sens que nous l'entendons, nous les protestants. C'est-à-dire que si on prend la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, il n'y a jamais d'idée de création ex nihilo, c'est-à-dire une création à partir de rien. La seule mention d'une création ex nihilo, c'est dans le deuxième livre des Maccabées, c'est-à-dire un livre deutérocanonique. Donc un livre qui figure par exemple dans la traduction œcuménique de la Bible, parce que le livre des Maccabées, qui fait donc partie des livres du deuxième canon, fait partie du canon retenu par l'Église catholique. C'est un livre dont on a la trace en grec, qui ensuite a été traduit en latin. Et dans le deuxième livre des Maccabées, Maccabées, c'est le moment où il y a la profanation du temple de Jérusalem, donc c'est la période grecque, avec la révolte des Maccabées, et notamment de Judas Maccabée. Et dans le deuxième livre des Maccabées, au moment où il s'agit d'apporter un peu de consolation à une famille qui est non seulement épouvantée, mais qui va subir les affres de cette invasion, il y a un moment où il est dit ceci, donc c'est un peu pour consoler l'enfant. « Je te conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, contemple tout ce qui est en eux et reconnais que Dieu les a créés de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. » Et la traduction latine, c'est « ex nihilo ». Donc, il y a une trace scripturaire, mais ce n'est pas une trace biblique. Dans la Bible, il n'y a jamais de mention d'une création à partir de rien. Alors, un théologien comme Karl Barth dira, effectivement, il n'y a aucune trace scripturaire, il a cette honnêteté-là, mais il va dire, mais évidemment, tout concourt à penser qu'il y a une création ex nihilo. Moi, je pense qu'un texte comme Genèse 1 dit l'inverse. C'est que la création n'est pas à partir de rien. Et je pense que le mieux, c'est de ne pas traduire l'expression hébraïque, puisque l'expression hébraïque, c'est le tohu-bohu. Et un tohu-bohu, c'est assez significatif en français pour le conserver. Donc, la terre était un tohu-bohu. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, le tohum. Voilà, dire qu'il y avait un tohu-bohu, c'est dire qu'il y avait une sorte de bazar. Les scientifiques vont parler de la soupe primordiale. Voilà. Il y a quelque chose, plutôt que rien, en tout cas. Et c'est à partir de ce quelque chose que Dieu va créer. Et effectivement, comme le disait Christiane, ça va se faire par la parole et ce n'est pas sans signification. Toujours au verset 2, il y a quelque chose d'intéressant à mettre en relation avec un autre texte que j'aurais pu convoquer aussi, c'est la question de Noé, de l'arche et du déluge. Vous voyez, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est quelque chose que l'on va retrouver ensuite de deux manières. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, verset 7, le déluge a cessé, mais l'eau est encore à un niveau très haut, et Noé lâche un corbeau. Et on dit que le corbeau sort, revient, au-dessus de la surface des eaux. Et c'est après qu'on lâchera la colombe pour vérifier que le niveau a effectivement descendu, et rapportant une branche d'arbres, d'oliviers, on comprend que la terre sèche apparaît. Mais ce n'est pas la colombe qui fait que la terre est sèche, la colombe atteste. Il y a quelque chose de sacramentel, en fait. Comme le sacrement est là pour attester une grâce déjà à l'œuvre, la colombe est là pour attester quelque chose qui a déjà été effectué. Et ce qui a été effectué, c'est le travail du corbeau qui, en fait, symbolise l'esprit. Le corbeau symbolise l'esprit, il se meut à la surface des eaux. Et l'esprit, en hébreu, c'est la même chose que le souffle et que le vent, le ruar. En grec, c'est pneuma, hein, c'est le souffle aussi. C'est la raison pour laquelle on dit que l'esprit de Dieu est insaisissable, parce que nul ne peut saisir le vent. On peut en profiter, on peut gonfler sa propre voile, on peut éventuellement marcher contre le vent, c'est le péché contre l'esprit. Et ça mène pas loin. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et qu'au verset 10, on arrivera à la terre sèche. Entre-temps, nous avons le verset 3 avec effectivement ce terme « Dieu dit ». Oui, alors peut-être pour ceux qui sont un peu curieux de savoir comment s'écrit « tohu-bohu » en hébreu, c'est à la deuxième ligne. Donc comme ça s'écrit de droite à gauche, vous partez de la droite et c'est les troisième et quatrième mots. Deuxième ligne, en partant de la droite, ce sont les troisième et quatrième mots. Tohu wabohu. Vous pouvez le souligner. Voilà. C'est ça qui est traduit par informe et vide. Ensuite, au verset 3, On a donc cette expression qui va revenir souvent, c'est le mot qui est juste à gauche du petit 3 dans le texte hébreu, « Wayomer ». Dieu dit, c'est le verbe « amar ». Et au fond, c'est intéressant parce qu'il y a là un petit trésor insoupçonné, notamment pour les enfants et les petits-enfants. Vous connaissez l'expression des magiciens ? L'expression des magiciens, c'est « abracadabra ». Eh bien, en fait, cette expression est fausse. La vraie expression, c'est « abracamra ». Parce que, en fait, « abracadabra », c'est « ubarakadiber ». Donc, c'est « il a créé comme il a dit ». Sauf qu'ici, ce n'est pas le verbe « dabar », c'est le verbe « amar ». Le verbe « dabar », c'est la parole. Mais c'est la parole au sens de « commandement ». C'est ce qui va arriver d'ailleurs à Noé quand il sort de l'Arche d'Alliance. Il va y avoir ce qu'on appelle l'Alliance Noachique, avec de nouveaux commandements qui sont offerts à Noé. Et ce sont des dibrei, ce sont des paroles de Dieu. Amar, c'est parler, non pas au sens de cadrer, non pas au sens de canaliser, mais plutôt au sens d'ouvrir un espace de dialogue. On va le voir dans la suite du texte. Je vais vous proposer une compréhension de ce que signifie créer, qui n'est pas justement faire rentrer dans des canons, mais au contraire faire éclater ces canons et offrir quelque chose de nouveau. Donc ici c'est le verbe amar et Dieu va créer, le verbe bara va créer en parlant. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ça nous fait réaliser que Dieu crée non pas en fabriquant, il ne fabrique pas comme un potier fabrique, Christian parlait de façonner, etc., qui vient ultérieurement. La parole, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile, voire inutile. On peut se demander ce que ça peut produire comme création. Mais au fond, c'est le premier acte qui crée la personne humaine quand il y a notamment le petit Jésus qui naît, pour reprendre l'exemple de Françoise. C'est-à-dire que ce qui fait accéder le vivant à l'humanité, c'est la parole. C'est le père qui nomme l'enfant, par exemple. C'est tous les mots qui vont être dits à l'enfant et qui le créent en tant que personne humaine. On va voir évidemment, comment cela se joue. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est le fameux Fiat Lux. Si vous cherchez pourquoi les véhicules italiens s'appellent Fiat, c'est qu'il soit. Enfin, c'est une sorte d'expectative. Que la lumière soit et la lumière fut. Et la question, c'est qui répond ? Dieu dit que la lumière soit, d'accord. Il y a visiblement une réaction. Mais qui répond ? Est-ce que c'est la nature qui répond ? Est-ce que d'un seul coup, la lumière se dit « ben, très bien, je vais être ». C'est une hypothèse. Certains, en tous les cas, sont partis sur cette hypothèse que la nature répond à l'appel de Dieu. Certains théologiens du process sont un peu sur cette perspective-là, notamment Ford. En disant, quand Dieu dit que la végétation croisse, eh bien, voilà, la végétation retrousse ses manches et elle y va. Mais je crois que Michel Serres aussi, le philosophe, est un peu dans cette perspective-là lorsqu'il dit, au fond, face à l'agression que la population humaine fait subir à la nature réagit, répond à cette agression par quelques cataclysmes, par quelques dérégulations, etc. Alors vous voyez, c'est sous l'angle de la métaphore certainement tout cela. Mais c'est une manière de dire qu'il y a une interaction. Et qu'après tout, ce n'est peut-être pas au sens où il est toujours bon de parler au plant de tomates pour que les tomates soient plus grosses et plus rouges. Mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus indifférent vis-à-vis de la tomate. Bon, on peut dire d'abord parce que la voix est ondulatoire et donc il y a une vibration qui va toucher les plants de tomates et ça ne peut pas être sans effet. Mais on pourrait aller plus loin. Et ce plus loin, c'est une distinction qui est faite par les théologiens sur l'essentialisme et l'existentialisme, en fait. Bon, les philosophes font aussi cette distinction. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon la plus claire qui soit. Et comme c'est assez important, si vraiment c'est pas clair, on y retourne. On va prendre un exemple assez simple. André Gounel prend comme exemple « Pierre sent la rose ». On pourrait prendre comme exemple « Paul lit la Bible ». Donc, vous avez trois termes. « Paul lit la Bible ». Vous avez, disons, deux substances, « Paul » et la Bible. Ce sont deux choses. Et puis, vous avez un verbe au milieu. Les essentialistes vont dire « Il y a d'abord les deux termes extrêmes, « Paul » et la Bible ». Et même s'il n'y a pas de lecture, il y a quand même Paul, il y a quand même la Bible. C'est-à-dire qu'il y a deux substances qui n'ont pas besoin de la lecture pour être ce qu'elles sont. Donc, Paul et la Bible n'ont pas besoin l'un de l'autre pour être. Ils sont par eux-mêmes. Ils sont par eux-mêmes. Voilà. Les existentialistes vont dire, il y a d'abord la lecture, et ensuite, Paul et la Bible. Pourquoi ? Parce que la Bible ne va être véritablement elle-même, c'est-à-dire objet de lecture, que si elle est lue. C'est-à-dire qu'elle elle n'est vraiment accomplie qu'à la condition qu'elle soit utilisée. C'est-à-dire qu'elle donne toute la mesure de ses talents, elle donne toute sa plénitude, à condition qu'on l'utilise pour ce qu'elle peut accomplir. Et réciproquement, c'est parce que Paul lit la Bible qu'il prend conscience de lui-même, qu'il existe. Et si on reprend l'exemple d'André Gounel, Pierre sent la rose, eh bien, c'est parce que Pierre sent la rose qu'il accède à l'existence. C'est-à-dire qu'il prend conscience de lui-même d'abord parce que l'autre lui renvoie. Quelqu'un comme Martin Buber, dans son livre « Je tue », dira, le « je » existe, donc « je », l'ego, à condition qu'il y ait un « tu ». Lévinas dira à quel point nous existons dans le regard de l'autre. Mais il y a vraiment un accent qui est mis sur la fameuse existence qui précède l'essence. Ce n'est pas simplement un thème de Jean-Paul Sartre. C'est déjà, je crois, bibliquement parlant, envisageable. Première réponse, soit la nature répond à Dieu. Deuxième réponse, c'est l'homme qui prend conscience de la nature par l'appel que Dieu lance. C'est-à-dire que l'appel de Dieu est ce qui permet à l'homme de prendre conscience de l'environnement ou à l'environnement de se révéler à la conscience de l'homme. Et au fond, cet acte de création, c'est un acte de mise en relation. Et on va voir tout au long des journées de la création que Dieu sépare et relie. C'est la fameuse dynamique moderne, distinguer et relier, séparer et connecter. Par rapport à essentialisme, existentialisme, c'est à peu près clair ?
Pierre qui sent la rose, il y a deux termes.
Oui.
La pierre et la rose.
Oui. Oui.
Pour la Bible, c'est pareil. Il y a deux termes.
Oui.
Mais dans le deuxième cas de figure sur l'existentialisme, il y a trois termes. Alors il y a donc une différence. Et j'ai pas bien compris comment passer la première hypothèse, si vous voulez, à la seconde. Dans le deuxième cas, il y a l'homme, il y a Dieu. Et il y a la nature. Vous voyez ce que je dis ?
Oui, mais en fait, on pourrait reprendre un peu le thème juif du Tzimtzum, c'est le retrait. En fait, il y a toujours deux termes. Dieu ne fait que la mise en relation. Il n'y a pas, en fait, Dieu disparaît dans la relation des deux termes principaux. Donc, on n'est pas dans une triangulation, ou alors la triangulation existe aussi dans Paul lit la Bible. C'est-à-dire que pour accéder à cette possibilité de lire la Bible, il faut en quelque sorte que quelqu'un m'en ait donné l'idée. Il faut qu'il y ait eu une sorte de désir d'ouvrir ce livre et d'y plonger mon regard et d'essayer de lui donner du sens. Donc on peut retrouver aussi l'hypothèse Dieu dans ces phrases « Pierre sans la rose », etc.
Je m'arrête là, ce que tu as dit tout à l'heure, que l'acte de création est un acte de communication. C'est ce que tu as dit ?
Oui, ou, enfin, on peut le dire comme ça en tout cas, oui. J'ai plutôt de mise en relation, mais ça va être de la communication.
En relation. Oui. Mais bon, c'est quand même très différent de ce qu'on lit littéralement, là, que la lumière soit, etc., que la lumière fût. C'est plutôt un acte d'organisation. Là.
Oui.
C'est
pour ça que j'ai dit de mise en relation. Parce que.
Mise en relation et l'organisation,
c'est-à-dire que la première chose, c'est effectivement de nommer, donc de distinguer. Mais ensuite, ça va être de donner du sens. Et donc, ça va être de mettre en relation les éléments que l'on vient de distinguer. Le jour et la nuit vont être mis en relation. Le sec et les eaux vont être mis en relation. Et puis, par exemple, pour les luminaires, on va leur assigner comme tâche d'organiser le temps. Donc, il y a une mise en relation entre les éléments et puis aussi, finalement, une mise en relation avec celui qui va en être l'observateur privilégié. Et finalement, ça sera l'homme. C'est-à-dire que soit on prend ce texte de création comme un texte finalement un peu à caractère pré-scientifique, c'est-à-dire que c'est ainsi que le monde a été organisé, soit on le comprend dans une démarche où il s'agit d'aider l'homme à prendre conscience de la place qu'il occupe au sein de la création, et du coup, c'est quand même un petit peu anthropocentré, c'est-à-dire que c'est un regard qui est le regard que l'homme porte sur son environnement et qui est un regard qui est instruit par ce qu'il comprend de ce que Dieu l'aide à vivre. Donc, de ces deux hypothèses découlent deux rapports au texte. Soit le texte est là pour nous faire, en quelque sorte, un historique des événements tels qu'ils se sont effectivement déroulés. Ça, c'est dans la perspective pré-scientifique. Soit, au contraire, c'est plutôt un récit à caractère mythique, c'est-à-dire nous faire toucher du doigt ce qui aujourd'hui nous permet de comprendre notre place au sein de ce grand ensemble finalement.
Voilà, on est absolument dans le débat entre les créationnistes hein, qui disent que c'est purement un caractère scientifique tout ce qui est écrit là.
Hein, oui.
Et puis caractère mythique, enfin,
que tu évoques à l'instant. C'est-à-dire que si on veut absolument tenir le caractère scientifique ou pré-scientifique, vous voyez, le simple fait de savoir si la lumière a des oreilles pour entendre ce que Dieu lui dit est déjà un premier hiatus quand même. Et ça sera vrai pour d'autres textes, notamment celui d'Ézéchiel 37. Si on n'est pas dans le registre de la métaphore, il y a quand même des choses un petit peu problématiques. Ce qui est problématique, c'est même l'ordre des événements. Peut-être que ça aurait été plus astucieux de le faire autrement et de faire apparaître des éléments avant d'autres, par exemple. Mais si on reprend ce verset 3 avec le mot qui va aussi scander tout cela, Dieu vit que cela était bon. Enfin, Dieu vit que la lumière était bonne. Vous voyez, la traduction est quand même un petit peu problématique. Parce que c'est quoi ce bon ou ce bonne ? Est-ce que c'est bon comme un gâteau est bon, ou est-ce que c'est bon comme quelqu'un qui fait preuve de bonté? Oui. Et en fait, la traduction, pardon, ça peut être le bien par rapport, ouais, bon par rapport à mauvais. Donc le terme qui est derrière, c'est Tov. Tov. Et Tov, c'est quelque chose que l'on va retrouver ensuite dans le récit du petit repas entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Au chapitre 2, verset 18 du livre de la Genèse, il y a d'abord Dieu qui dit « Il n'est pas tov que l'homme soit seul ». Bon. Est-ce qu'il n'est pas bon, c'est... Est-ce que ce n'est pas juste? Est-ce que ce n'est pas agréable? Est-ce que ce n'est pas délicieux que l'homme soit seul? Et donc, il faut lui faire une aide. Et puis donc, dans le jardin, parce que c'est un peu ce qui lui est proposé, faisons-lui... voilà. Et au chapitre 3, verset 6, c'est là qu'on voit que l'arbre était tov à manger. Alors cet arbre qui est tov à manger, ça veut dire que le fruit va être bon et délicieux? Ou est-ce que ça veut dire que le fruit va être juste? Moi, je pense que tout ça peut être traduit par vivable. C'est-à-dire ce qui autorise, ce qui permet la vie. Et quand Dieu vit que cela était tov, c'est que Dieu vit que cela était vivable. Et au fond, mais utile, peut-être, c'est ce que tu as aussi en tête. C'est utile pour propager la vie, en fait. C'est cet utilitarisme-là. C'est l'utilitarisme des utilitaristes, en fait. Ça, c'est le côté bien pragmatique, par Payot, très bien.
Peut-on se reporter au moment où ce texte a été écrit? C'était écrit sous David, non? À peu près.
Oui, à peu près 500 ans après David. C'est-à-dire, c'est après la déportation à Babylone. Donc, c'est un texte assez récent. C'est un des textes les plus récents de l'Ancien Testament. Et qui utilise la cosmologie babylonienne. Mais qui va utiliser aussi, et c'est ça qui est intéressant, des termes propres au temple de Jérusalem. C'est-à-dire qu'on va le voir un tout petit peu après avec la question des luminaires. Mais l'idée de ce texte, c'est que la création est le nouveau temple de Jérusalem. C'est-à-dire que on est dans une perspective où l'exil... après la destruction du temple, pose la question du lieu où Dieu se trouve. Et sans temple, on peut se dire, soit Dieu est désormais inatteignable, soit il se trouve au sein de cette création dont nous foulons le sol. Et c'est dans cette perspective-là que ce texte va être compris. Et les luminaires, en fait, c'est un terme, par exemple, qui apparaît pour désigner les luminaires qui sont dans le temple, dans la Bible. Et jamais pour désigner la lune ou le soleil.
Ça veut dire que les rédacteurs de ce texte ne rédigeaient pas avec un présupposé scientifique, enfin, je ne sais pas quel était l'état de la science à l'époque, mais plutôt métaphorique.
En fait, il y a quand même un énorme présupposé.
Est-ce qu'ils voyaient Dieu comme un grand architecte?
Déjà, il voyait quelque chose qu'il faudra plusieurs centaines d'années pour repérer, c'est que le soleil, la lune, les montagnes, etc., ne sont pas divines. Ce sont des créatures. Enfin, créatures au sens d'objets créés. Et donc, ce ne sont plus des divinités. Donc, on ne va plus se mettre à plat ventre devant le soleil. Oui. Donc il y a quand même une conception scientifique assez affirmée et assez moderne déjà. Au fond, ce texte biblique, mine de rien, Genèse 1, mine de rien, c'est ce qui autorise la science. C'est ce qui autorise l'astrophysique. C'est ce qui autorise à scruter l'univers et la création, puisque ce ne sont pas des divinités. Ce sont donc des objets qui peuvent être scrutés, étudiés, mis au bout du stéthoscope, du télescope, du scalpel. Donc il y a quand même une précompréhension scientifique, là.
C'était tout à fait contraire à ce que croyaient les Égyptiens, par exemple.
Ouais.
Le soleil.
Enfin, ouais, ça dépend aussi quelle époque de l'Égypte, parce qu'entre Akhenaton et Toutankhamon, il y a eu de singulières différences. Mais oui, ça se démarque en fait de l'époque. Et au fond, ça réagit aussi à Babylone. Hein, puisque à Babylone, on a notamment Astarté, etc., avec tout un plérôme, toute une organisation, toute une architecture. Alors, est-ce que Dieu est architecte ? Je pense que il a en tous les cas peut-être un plan d'architecture en tête, mais vous voyez, il agit plutôt comme un père agit en fait. C'est-à-dire que parce que c'est par la parole, il est quand même plutôt sur le registre de faire venir au monde comme les parents font venir leur enfant au monde, en rendant le monde intelligible en fait, en passant du tohu-bohu au cosmos. C'est ce que tu disais, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation. On met un peu d'ordre. Vous savez, c'est comme quand vous rentrez dans la chambre d'un enfant ou d'un adolescent. C'est le bins. Pour vous. Parce que pour lui, tout est à sa place. Et s'il vous explique pourquoi ce sweatshirt est par terre, pourquoi cette canette de Coca-Cola est à moitié entamée sur son bureau, pourquoi le livre est retourné ouvert sur son lit, etc., bon, pour vous, ça va être tout de suite plus compréhensible. Mais vous arrivez, vous êtes face à un tohu-bohu. Vous dites, il faut mettre de l'ordre. Et il vous explique, voilà, là c'est ceci, ça sert à ça, là c'est ceci, ça sert à ça. Et d'un seul coup, c'est beaucoup plus vivable. Parce qu'il crée un espace devant vos yeux. Et en fond, il a rien bougé. Mais en assignant un nom et une fonction à chaque chose, parce qu'il y a peut-être aussi des objets que vous n'avez encore jamais vus, qui sont dans cette chambre, en donnant un nom à ces objets et leur donnant une fonction, ça rend cet espace plus compréhensible et en fait, ça le crée. Et vous voyez un univers se créer sous vos yeux. Et c'est vrai aussi, on prend un autre exemple beaucoup plus symbolique, un culte, c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux. Quand on arrive pour la première fois dans un temple et qu'on voit un culte qui se déroule, c'est quand même assez dépaysant. Bon. À partir du moment où on vous explique quelles sont les étapes de la liturgie, pourquoi est-ce qu'il y a l'annonce de la volonté de Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a une prière de repentance, qu'est-ce que signifie l'annonce de la grâce, que confesser sa foi, c'est comme on témoignerait de l'accord, de l'amour que l'on reçoit, etc. Et bien d'un seul coup, ça devient plus familier et on se sent chez soi. C'est faire un peu le tour du propriétaire finalement. Et c'est ce que Dieu fait finalement.
Mais est-ce que parler de Dieu, comme c'est dans ce texte, c'est pas un peu de façon de le ramener à nous, quoi, enfin à notre image, de le ramener dans notre univers, là, construit, dit, un certain pouvoir. Donc au lieu de. C'est un peu le contraire, Dieu fit l'homme à son image, c'est l'homme qui fit Dieu à son image pour pouvoir dialoguer avec
lui. Oui, c'était la thèse de Botero, ça d'ailleurs. Lorsque l'homme fit Dieu à son image. Oui. Oui, certainement, c'est pour ça que je disais que c'est un regard anthropocentré. Vous voyez, c'est un texte qui va déboucher sur l'avènement de l'homme et aussi du règne animal. C'est une façon de dire qu'il est un peu au sommet de la pyramide. Simplement, essayons de réfléchir aux différentes manières que l'on pourrait avoir de raconter les origines. Soit effectivement il y a une révélation qui s'impose, quelque chose de très vertical, grosso modo une révélation de type coranique après tout. Voilà les fondations du monde, voilà comment le monde a été fondé en quelque sorte. D'ailleurs le Coran est bien autre chose que cela. C'est pas le cas ici. Là il n'y a pas une révélation qui est faite à Moïse par exemple. C'est même pas Moïse qui est l'auteur de ce texte. L'autre chose, ça pourrait être la démarche scientifique. Essayons d'explorer l'univers pour tâcher de retrouver l'origine. Ça, c'est quelque chose de, voilà, tout à fait précieux, mais qui n'est pas la démarche de ce texte. En fait, ce texte ne cherche pas à décrire les origines, en dépit des apparences. Parce que justement, la personne qui rédige ce texte n'est pas dans la situation d'avoir des informations particulière qui jusque-là aurait été cachée, les fameuses choses cachées depuis la fondation du monde. C'est-à-dire que le rédacteur du texte ne prétend pas être détenteur d'une vérité sur les origines qu'il révélerait enfin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est un peu trompeur, finalement, c'est vrai. Bereshit, c'est en tête. En tête, c'est in arché pour le grec. Hein, c'est comme ça que commence l'évangile selon Jean. C'est dans le principe. Au fond, ce qui est primordial, c'est ça. Donc, c'est pas l'origine au sens temporel du terme, c'est ce qui est premier dans le désir de Dieu, finalement. C'est-à-dire que c'est pas l'origine de l'histoire de l'homme, c'est ce qui vient en premier dans le désir de réalisation de Dieu. Est-ce que ça, c'est à peu près clair comme distinction, ou c'est un peu trop théorique ? Ce texte biblique ne prétend pas dire comment le monde a été fondé. Ce n'est pas la préhistoire. Au commencement, Bereshit, en tête, voilà ce que Dieu avait. Au fond, on pourrait dire ça. C'est encore l'anthropomorphisme. Dire que c'était dans la tête de Dieu, vous voyez, c'est une façon de dire que Dieu a une tête, etc. Bon, c'est une métaphore. Mais c'est une façon de dire, voilà ce qui est le principe, le principal dans l'espérance que Dieu forme. Oui.
Au fond, ce texte sert d'enseignement.
Oui.
C'est pas un enseignement.
Si.
C'était pas le désir du rédacteur.
Oui, un enseignement pour le lecteur, donc nous aujourd'hui notamment.
Voilà.
Mais déjà, oui, mais pas au sens d'un savoir sur ce qu'il y avait avant,
non.
Mais plutôt d'un savoir sur l'aujourd'hui finalement.
Oui, il n'est pas détenteur d'une vérité, mais justement, à travers un mythe, de montrer, pas la toute-puissance de Dieu, mais le Dieu créateur, quoi.
Oui.
C'est ça.
Donc, ça relève quand même du domaine de la vérité. Le mythe est là pour faire accéder à une vérité, mais qui n'est pas une vérité d'ordre matériel ou archéologique, mais une vérité relative à la vie. Vous savez, tous ces aspects de la vie qui sont immatériels, l'amour, la justice, la peur, l'espérance, ça c'est non sensible. Donc pour pouvoir parler de cela, il faut faire des périphrases, des métaphores, donc du mythe. Hein, voilà. Et là on est précisément dans ce registre-là, oui. 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 Oui, pour faire toucher du doigt une réalité non tangible.
Voilà, exactement.
Oui, c'est ça. Philippe.
Oui, je veux dire, là, en 2011, ce que vous venez de dire, ce que j'ai dit, mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui ne croit pas, est-ce qu'il peut, avec les sciences modernes, faire une correction à ce qu'on dit ?
Avec
les scientifiques, quand vous parlez des montagnes,
oui.
De tout ça, la nature, et puis, ça t'écrit dans une époque qui n'est plus du tout avec le même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des fois des contradictions ou des différences d'analyse ?
Non, il n'y a pas de différence d'analyse,
oui,
parce qu'on n'observe pas la même chose.
Ah,
c'est-à-dire
d'accord.
Que la science,
oui.
En l'occurrence, va chercher le comment, et la théologie va chercher le pourquoi, pour caricaturer un peu. Donc,
oui.
Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition.
Science,
on est sur
ça.
Deux registres différents. La science va essayer d'expliquer l'élaboration du monde, voilà, tel que vous l'avez au
oui,
bout des doigts. Et la théologie, les textes bibliques vont nous enseigner, nous exprimer une vérité sur l'habitation du monde. Hein, sur, et maintenant, où on va, en quelque sorte.
Hein. C'est ça que je voulais savoir.
Comment faire pour bien faire et comment faire pour que ce soit vivable, le tov.
Ouais,
oui,
d'accord.
Bon. Oui, oui. Oui.
Mais répondant à Dieu dit, il y a Dieu vit, le soleil est bon.
Oui.
Donc toute la création, depuis les rochers, la lumière, etc., jusqu'à l'homme, Dieu vit, que c'est bon.
Presque. Parce que pour l'homme, c'est Tov Meod, c'est très bon, donc c'est très vivable, le sixième jour.
Est-ce que le terme d'hébreu, c'est bien Dieu vit, que c'était bon ?
On
pourrait pas penser que. Plutôt de dire que c'était utile.
Alors, c'est précisément ce que disait Jean-Claude sur le terme utile. Moi, je disais, on pourrait plutôt utiliser le terme vivable en disant, en fait, nous avons en tête la même chose. Donc, c'est pas bon. Oui, c'est ça. C'est pas le bon qu'utilisent les enfants. Le comme c'est bon, ou ce que vous voulez. Effectivement, c'est soit utile, soit vivable. En tous les cas, ça participe au projet. Voilà. Ça va dans le bon sens, on pourrait dire, pour reprendre le terme bon. Voilà. Ça va. Ouais. Ça roule. Ça roule. Bien. Si vous, si vous voulez savoir quel est le terme utilisé pour séparer, hein, le verbe séparer, c'est badal. Et effectivement, ça veut dire organiser, ranger. Et donc, c'est ce qui fait passer du tohu-bohu au cosmos, comme je vous le disais. Au verset 5, on n'en est qu'au verset 5, mais après, comme ce sont les mêmes, on ne va pas s'étendre complètement. Hein. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Vous voyez, il appelle. Alors, appeler, ça veut dire quoi? C'est viens ici? Mais c'est nommé. En fait, c'est les deux. Kara, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois nommé et convoqué. Et en fait, c'est donner une vocation. La vocation, au fond, c'est voilà, donner une raison d'être. Oui. Donc, c'est ce qui donne un sens à la vie aussi. La vocation, c'est ce qui appelle, c'est ce qui attire à soi. Il y a l'idée selon laquelle Dieu attire. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans la théologie du process. Dieu attire le monde. Et il ne le façonne pas, il ne le fabrique pas, il ne le forge pas, il l'attire vers un nouveau champ de possible. Donc, ensuite... Le lendemain du jour 1. D'ailleurs, notez quelque chose. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu tard pour vous. Mais il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça veut dire qu'il y a d'abord un soir et ensuite un matin. C'est-à-dire qu'on commence par le repos. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le repos. C'est la raison pour laquelle les pasteurs dans l'Église réformée de France, quand ils prennent leur premier poste, commencent par avoir un mois de vacances. Parce qu'il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Voilà. On prend d'abord les forces et ensuite, on se lance dans la bataille. Bon. Verset 6, le lendemain. Donc, Dieu dit, Wayomer Elohim, Yehi, qu'il y ait. Alors, c'est le verbe Aya, qui est aussi à l'origine du tétragramme. Voilà, c'est le verbe être, le verbe advenir en fait, parce que le verbe être est sous-entendu, comme bien souvent dans les langues anciennes. Et donc, vous voyez, c'est venir au monde comme événement. Il faut qu'il y ait un événement. Ce n'est pas être au sens de la stabilité, au sens de la substance, c'est advenir. Quand il y a le verbe aya, quand il y a le verbe être, c'est en fait advenir, surgir. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait ce petit détour entre substance et existence, entre essentialisme et existentialisme. C'est parce que justement, Dieu appelle, et c'est parce qu'il appelle que ça existe, et que donc il y a quelque chose. Oui, enfin, il y a quelque chose, il y a déjà le tohu-bohu, mais le tohu-bohu devient vivable parce qu'il y a un appel. Il y a une sorte d'attirance. Voilà, il faut que ça grandisse en quelque sorte. Là, on avance un peu plus vite pour vous envoyer au verset 10 sur « Dieu appela le sec la terre ». Et donc, en hébreu, c'est « yabash ». Et on va le retrouver notamment dans Ézéchiel. On parle des fois de la yabasha, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme. Donc, c'est la terre sèche. Et c'est justement le résultat de l'esprit qui était à la surface des eaux, comme le corbeau qui va et qui vient au temps de Noé. Donc,
le mot hébreu qui veut dire terre, là, au verset 10, est-ce que c'est le même que celui du verset 2 ?
Exactement, c'est aretz. C'est le même. Oui, c'est le... Par contre, on va voir au chapitre 2 qu'il y a un petit changement. On va passer de aretz à Adama, avec Adam. Et pour l'instant, on est toujours dans la terre eretz. On parle des fois de eretz Israël. C'est justement une terre habitée, en fait. Hein, c'est la terre qui autorise un espace social, pour le dire un peu avec un vocabulaire choisi. Il y a des fois une connotation politique, en fait, dans le Eretz. C'est le lieu où les hommes se tiennent et s'organisent ensemble. Donc, au verset 10, on a du sec. Et à partir du moment où on a du sec, on a au verset 12, la terre qui peut produire de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Et alors, c'est amusant parce que la terre qui produit de la verdure, ce n'est pas une production industrielle au sens strict du terme, c'est en fait la verdure qui sort de la terre. C'est le verbe « yatsa », comme les Hébreux qui sortent d'Égypte. Et c'est comme s'il y avait une sorte de libération. Enfin, l'herbe peut donner toute sa potentialité. Elle sort, voilà, elle émerge, hein, elle vient au monde. Elle peut s'épanouir. Donc, voilà, il y a une sortie. C'est pas au sens où la terre produirait, fabriquerait dans, comme une entreprise. Voilà, il y a une sortie. Alors, on ne sait pas si c'est l'œuf qui vient avant la poule ou si c'est la poule qui vient avant l'œuf. À moins qu'il y ait une mutation génétique quelque part qui traîne, mais ce n'est pas moi qui vais faire la leçon au naturaliste. Hein. Alors là, je ne me tromperai pas d'objet. Par contre, ce qu'on dit, c'est que ce qui pousse porte en lui la semence, la potentialité pour être fécond. Et c'est un des critères pour définir le vivant, c'est que ce soit reproductible. Voilà. Donc vous voyez, quand on se demande quel est le caractère scientifique de ce texte, ce n'est pas un texte scientifique, mais c'est un texte écrit par des gens qui, au niveau de la science, sont loin d'être des imbéciles. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rapport scientifique à l'environnement qui est loin d'être naïf. Bon, ensuite on peut passer justement au verset 14, où on voit qu'il y a des luminaires, et ces luminaires, justement, c'est ce qui fait partie du mobilier du temple. Si vous voulez, c'est dans le livre de l'Exode, où, quand on décrit le temple, chapitre 25, verset 6, ou alors chapitre 35, verset 8, 14, 28, voilà. C'est en ce sens qu'on a ici un indice qu'on ne parle pas simplement du monde qui est là, mais aussi du temple de Dieu. Un temple métaphorique, là aussi. Mais c'est pour ça que je répète souvent que quand on rentre dans l'oratoire, on ne sort pas du monde. C'est qu'il n'y a pas plus temple là au sein des murs qu'à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, les témoins bibliques se déchausseront parce que le sol sur lequel ils se tiennent est un lieu saint, au sens où Dieu peut être rencontré. Bien. On pourrait bien sûr prendre les choses plus dans le détail. On continue jusqu'au verset 31, qui est le sommet de la création. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon ce coup-ci. C'est pas simplement bon, c'est très bon, c'est tov me'od, c'est beaucoup tov, c'est beaucoup vivable. C'est-à-dire la création du vivant. Et au chapitre 2, verset 1, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion. Tout achevé, ça peut donner l'impression que ça y est, c'est fini, c'est réglé. La création est finie, achevée, accomplie. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Le mot qui est derrière, c'est « kala », ça vient de « kol », ça veut dire « tout ». Ça veut dire « il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit vivable hein ». Tout est disponible pour la suite. Il ne manque rien. Voilà. Alors, c'est le fameux Tseba. Quand on dit, par exemple, le dieu des armées, c'est Yahvé Tsebaot. On pourrait dire les légions, c'est en quelque sorte l'environnement. Ça y est, hein ? L'armada, oui. Ouais.
Pour définir la totalité. Enfin,
c'est ses troupes, quoi. Ouais, c'est ça. La smala, quoi.
Voilà.
Ouais. Dans le psaume 103, on parle des croyants comme vous, ces anges, vous, ces armées. Il n'y a pas de connotation militaire, visiblement. À la limite, on pourrait dire le dieu des armées au sens où il est vraiment des armées. Ouais, ok, d'accord. Je savais que ça marchait que moyennement.
Tout ce qui était nécessaire, tout ce qu'il fallait.
Ouais. Au fond, ouais, c'est ça.
Le ciel, la terre et tout ensemble.
Oui, c'est ça, oui. Voilà, tout ce qu'il ouais, tout ce qu'il faut. On peut passer au chapitre suivant. Chapitre 2, je vous le lis assez rapidement. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Donc là, pareil, je vous fais le commentaire au fur et à mesure. Vous voyez, c'est un peu ambigu parce qu'on peut se dire, ah ben alors là, c'est vraiment un récit scientifique parce qu'on parle des origines. Ouais, sauf qu'en fait, il n'est pas question de ça. C'est le deuxième mot en hébreu, donc le deuxième en partant de la droite. Toldot, c'est de la racine yalad. Yalad, ça veut dire enfanter. Et toldot, c'est en fait les engendrements, ça veut dire les générations. Donc ça veut dire, voilà les différentes étapes successives. Il ne faut pas imaginer origine comme le point zéro, mais plutôt comme, voilà, comment successivement les choses se sont organisées. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Et là, on a le verbe « faire » et le verbe « bara », c'est « créer ». Donc, quand ils furent créés, « bara », lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, donc c'est le verbe « faire ». Et là, encore, il y a une trace de cette création ex nihilo. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et bien, en fait, c'est intéressant parce que la construction hébraïque est tout à fait à l'inverse. Puisqu'on a à nouveau « kol », et donc il faudrait traduire « et tout arbuste des champs avant qu'il advînt sur terre et toute herbe des champs avant qu'elle croisse, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. » Mais vous voyez, c'est bizarre. On a comme ça le besoin de dire aucun, comme s'il y avait du vide, comme s'il y avait du rien. Et en fait, la construction, c'est lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, et que tout arbuste des champs était avant que ça arrive, quoi. Voilà.
Il y avait déjà des arbres. Il y avait pas d'arbres.
Mais là, on est dans un deuxième récit de la création. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'hésite pas à les juxtaposer. Et celui-ci est plus ancien que l'autre. Le plus récent a été mis en tête. Oui.
Oui, un simple retour en arrière, si
d'accord.
Vous permettez.
Oui.
Parce qu'on a été vite là.
Oui.
Au verset 10, 27.
Oui.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme à son âme.
Oui.
Alors, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que dans la traduction, si elle est bonne, Dieu créa l'homme à son image, mais on ne parle pas de la femme. Mais on en parle après. On en parle après. Il créa l'homme et la femme.
Mm-hmm.
On a vu l'autre jour, en étudiant un peu le texte, la dimension un peu féminine, si je puis dire, de Dieu, justement. Est-ce que Dieu est seulement père, ou est-ce que Dieu est père et mère en même temps ?
Oui, il est parent, en fait. Hein ? Ouais. Il est plutôt parent.
C'est intéressant pour ça.
Oui, bien sûr.
Et alors, il est certainement mère en même temps, puisqu'il crée la femme avec l'homme.
Mmh.
Voilà.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait,
le texte est un peu ambigu,
non, en fait, il n'est pas du tout ambigu en hébreu.
Ah, oui, voilà,
si on veut la traduction, voilà. C'est il créa l'homme, il le créa mâle et femelle. L'homme au sens de être humain.
Voilà, hein? C'est ça. Voilà, c'est
il
ça.
Le crée Adam, il crée Adam, donc l'être humain.
L'être humain. C'est
voilà.
C'est de dire, Dieu créa l'être humain à son image.
Mmh. Et donc, il le crée zakar, donc viril. Ou nekva, donc féminin, disons, voilà. Zakar, c'est le pieu, quoi, c'est la lance voilà, guerrière, et nekva, c'est plutôt la matrice, quoi. La douce matrice. Si, là, il y a une différenciation sexuée. Voilà. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, donc il n'y avait point d'Adam, pour cultiver le sol. Et l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Et voilà, c'est ça que c'est intéressant, verset 7. Donc, il crée Adam, donc il crée Adam, avec de la poussière, Afar, de la terre, mine Adama. Vous voyez ? Il crée l'Adam à partir de l'Adama. Donc, il crée l'homme à partir de la surface du sol. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'ensuite, vous savez, on dit, bon, bah, il y a Adam, et puis après, il va y avoir Ève, Raya, ça veut dire la vie, en fait. Hein. La question, c'est, est-ce que, souvent, on en est au point où on se demande si ce sont des personnages historiques. Enfin, certains se demandent si ce sont des personnages historiques. Alors, bon, la réponse, a priori, c'est plutôt non, évidemment. Mais, en fait, ce ne sont même pas des figures humaines. C'est-à-dire que Adam et Ève, c'est Adam et Raya, c'est le sol et la vie. Au fond, c'est l'acte de la création. C'est même pas vous et madame, symbolisé avec d'autres noms. C'est la liaison qu'il y a entre nous et le sol. Je veux dire, on est de la même matière. Il y a une solidarité entre nous et la création, puisqu'on est de la même matière. Et puis, il y a de la vie, c'est-à-dire qu'il y a de l'allant, il y a de la dynamique. Au fond, que sommes-nous ? Nous sommes un sol dynamique. Et on va le revoir avec l'évangile de Marc. On va sauter à Ézéchiel 37, sauf si vous avez encore des questions sur la création dans le livre de la Genèse, ce qui est tout à fait envisageable. Bon, on a encore toute une vie hein, pour là. Bien. Ézéchiel 37, c'est de l'autre côté, donc. Donc je fais pareil, je vous le lis en vous faisant des commentaires, et puis dès que vous avez envie de poser des questions ou faire des remarques, on y va. Donc Ézéchiel. Donc, je me disais, Genèse 1, c'est pas de création ex nihilo. Genèse 2, c'est création de l'individu. Ézéchiel 37, c'est la création d'une société ou la création sociale. C'est-à-dire Dieu qui s'intéresse certes à l'individu, mais qui s'intéresse aussi au peuple. Alors comment ça se joue ? La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me, non pas transporta, mais me fit sortir. On recommence avec cette idée de sortir, et on le reverra encore chez Marc. On sort, en esprit, il y a encore cette idée d'esprit, il y a le souffle. Un peu comme le corbeau, vous savez. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Alors on se dit, pas bon ça. En fait, ils étaient complètement yabeshot. C'est yabasha au pluriel. Yabash, c'est le sol sur lequel on peut vivre. C'est pas forcément négatif, cette histoire. C'est-à-dire que c'est de l'humus, une fois de plus. On a là l'idée selon laquelle on a les ossements de la terre sèche. C'est-à-dire, vous qui êtes sur le sol de la création. Les ossements, après tout, c'est quoi ? C'est la substance de l'être humain. Vous voyez, c'est comme si il y a une formule rhétorique quand on désigne le tout par une partie. C'est une formule dont j'oublie toujours le nom, mais vous le retrouverez vous-même. On prenait une partie de l'homme pour le désigner. Il me dit, donc c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, il me dit, « Fils de l'homme, Ben Adam. » Ben Adam. C'est fils d'Adam. C'est comme ça qu'on désigne les personnes aujourd'hui en Israël. Ben Adam, c'est un homme. Il y a eu tant de Ben Adam tués sur ce carrefour. Et c'est comme ça que Jésus va être nommé aussi, hein, par certains aspects. Fils de l'homme. Bon. Ces eaux pourront-ils revivre ? Alors, c'est le verbe raya. Vous voyez, il y a Adam et Ève, là, hein, mine de rien, discrètement. Hein, il y a Ben Adam, et à côté, il y a le verbe raya. Pas mal, quand même. Et c'est le verbe vivre à une forme réfléchie, ce qu'on appelle le itpael. Donc, c'est, à la limite, c'est est-ce que ces eaux pourront se rendre à la vie ? Oui. Est-ce qu'ils pourront retourner à la vie ? Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre vie ? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir par eux-mêmes ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Réponse intéressante. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et si là, vous ne comprenez pas que c'est une métaphore, on se doute bien que les ossements n'ont pas les osselets avec le marteau, l'enclume de l'oreille interne, etc. Ossements desséchés, donc, vous qui êtes des ossements de la terre, vous qui êtes sur le sol de la création, écoutez. Et donc, là aussi, je trouve qu'on a un texte qui nous parle non pas de la substance, mais de l'existence. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il y a une mise en relation, et voilà, quelque chose qui est de l'ordre de l'événement. Le Fils de l'homme parle à l'os, comme Pierre sent la rose ou Paul lit la Bible. Et du coup, l'ossement ne va plus être le même, et le Fils de l'homme non plus d'ailleurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voilà donc toujours cette idée qui va revenir souvent, l'esprit qui donne la vie, et c'est ça en fait le geste de la création. On l'a au verset 5, on l'a encore au verset 6, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et puis au verset 10, on a je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit en entra en eux, et ils reprirent vie. Donc, verset 14, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » Et vous voyez, il y a toujours cette dynamique. Le souffle de l'esprit, la vie, et c'est ça qui crée. On retourne au verset 7. « Donc, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, c'est un tremblement en fait. » C'est Rach, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Vous voyez, cette mise en relation, cette mise en réseau, cette connexion. Hein ? À la fois, on distingue, ce sont des eaux, et en même temps, on relie. Voilà. Ils se rapprochent les uns des autres. Donc il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Donc, vous voyez, toujours l'esprit et la vie. Bon. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors là, par contre, c'est le terme militaire Rael. Rael Gadol. Très grande. Grande, très très. C'est amusant, hein. C'est une armée grande, très très. Rael, Gadol, Meod, Meod.
Dès cette époque primitive, l'importance de la prophétie.
Oui.
Dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes.
Oui, des Nevi'im.
Les prophètes de l'Ancien, c'est pas la même chose.
Non, parce que le prophète est celui qui proclame une vérité là, sans que ce soit une prédiction. Et au fait, que fait le prophète ? Il parle, il cause, il met en fait son interlocuteur dans la possibilité de faire des choix. Et on va voir que c'est ça l'acte de création. C'est d'offrir la liberté à l'interlocuteur. C'est-à-dire, bon, c'est parce que moi j'aime bien la théologie du process. Et la théologie du process, c'est ça qu'elle dit. C'est que l'acte créateur de Dieu, ou même l'acte de Dieu au fond, c'est d'ouvrir le champ des possibles. C'est de démultiplier les possibilités que nous avons pour notre avenir. Et donc, que fait le Navi, le prophète ? Il ne dit pas « voilà ce qui va se passer dans quelque temps », il dit « voilà ce que tu peux aussi envisager pour la suite ». C'est-à-dire que... C'est-à-dire que, si on reprend le récit de la Genèse au chapitre 1, quels sont les trois actes créateurs de Dieu ? Ou quelles sont les trois étapes de la création, plus exactement ? On l'a dit, il y a quelque chose au départ, il y a quelque chose plutôt que rien, il y a eu le tohu-bohu. La théologie du process va dire, il y a des data, c'est-à-dire il y a des données. Voilà, il y a différents éléments dans une situation donnée, il y a une situation de départ. Des datas, ce qu'on utilise aussi comme terme en informatique, des données. Deuxième étape de la création, l'intervention de Dieu. Dieu parle, on l'a dit. Et en parlant, il fait en fait apparaître de nouvelles possibilités. Ce gros truc lumineux, ça serait peut-être bien qu'il indique le jour. Et ce truc lumineux moyen, ça serait peut-être bien qu'il indique la nuit. Et puis on pourrait peut-être aussi s'en servir pour fixer un calendrier. Et puis après tout, voilà, cette étendue céleste, on pourrait peut-être considérer que c'est comme un toit pour vous. Et que vous n'êtes pas cantonné à habiter simplement dans des maisons, mais que dehors c'est aussi chez vous. Et qu'au fond, le ciel n'est pas quelque chose de menaçant qui risque de vous tomber sur le coin de la figure, comme le craignaient les Gaulois. Mais ça fait partie de votre environnement, ça fait partie de votre espace naturel. Donc, voilà. Dieu qui intervient pour rendre le monde plus vivable, plus familier, donc pour augmenter les possibilités d'existence. Et au fond, on pourrait dire pour éviter que le chaos reste en l'état, pour éviter que le tohu-bohu stagne, et en termes scientifiques, on dirait pour éviter qu'il y ait encore plus d'entropie même, hein, que ça s'aggrave, qu'il y ait plus de désordre. Et finalement, c'est ce qu'on appelle la négantropie, c'est-à-dire en mettant de l'ordre, on réduit le désordre. Donc, on rend les choses plus vivables. Parce que quand il y a du désordre, l'idée est que on a... comment dire ? C'est comme sur mon bureau, quand j'ai les papiers un peu partout, en fait, j'ai plus vraiment de place pour écrire. Donc, de temps en temps, il faut remettre un peu d'ordre pour pouvoir produire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de la production, il faut qu'il y ait de l'espace. Donc, le rangement sert à ça. Ça, c'est la deuxième chose. Et Fritz Lienhardt dit, parler à quelqu'un, c'est en fait la citation que je voulais vous faire, parler à quelqu'un, c'est l'appeler à la liberté, parce que c'est le confronter à une autre liberté. Et donc, si on le confronte à d'autres choix, c'est une façon de rompre, la fatalité des enchaînements intérieurs. Vous voyez, on a souvent l'idée selon laquelle on ne s'en sort que par soi-même. Ben, en fait, l'aide extérieure, c'est ce qui permet de ronronner avec nos propres moyens. Donc, ça décuple notre capacité d'être et d'existence. C'est vrai pour les dépressions nerveuses, par exemple. C'est l'aide extérieure qui évite le cercle vicieux de la mélancolie, etc. Et puis, troisième point, après la parole de Dieu, il faut qu'il y ait un écho à cette parole. Il faut qu'il y ait une décision. On peut très bien ne rien faire de cette proposition, de ce renouvellement. Mais on peut aussi en faire quelque chose. Et finalement, c'est ce que dit le théologien Ford. La création, c'est la fusion de formes nouvelles avec une matière reçue. Donc, il y a du préexistant, mais simplement, on nous donne de nouvelles idées pour accommoder cela. Au fond, c'est comme de la cuisine. Comment bien accommoder les restes ? Et l'histoire du peuple hébreu, c'est tout le temps cela. Si vous lisez les prophètes, par exemple Ésaïe, il y a toujours un petit reste. Et le petit reste va être accommodé. Et en fait, il va être la base du plat suivant. Enfin, au sens, c'est magnifique, quoi. C'est bon. C'est pas au sens, c'est voilà ce qu'on va consommer, quoi. Voilà. L'idée de la création, c'est améliorer cette situation-là. Ne pas la laisser en l'état, parce que sinon, ça dépérit. C'est pour ça que la théologie du process se fonde sur les travaux du philosophe Whitehead, qui part du principe de Carnot, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Tout corps tend à s'épuiser, à se fatiguer et donc à disparaître. Simplement, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des choses qui ne se fatiguent pas, qui ne disparaissent pas. Ça veut dire qu'il y a donc un facteur extérieur qui intervient pour renouveler le système. Et Whitehead, il voit là la trace de Dieu. Et il voit là la trace de Dieu créateur. Et la théologie du process s'appuie là-dessus pour se dire, mais oui, au fond, ce que Dieu fait, ce que Dieu crée, c'est de renouveler notre capacité d'existence, notre capacité à être. Il élargit l'espace de notre tente, pour reprendre le prophète biblique. Oui.
Revenons à la notion de prophète, c'était quand même un statut particulier, le prophète. C'est pas un illuminé, c'est un messager, c'est quelqu'un qui transmet quelque chose que lui inspire l'Esprit divin.
Oui.
Alors veux bien qu'il ouvre des possibles, mais c'est pas n'importe qui le prophète.
Non, bien sûr. Par exemple, Samuel, c'est celui qui va mettre les onctions sur les messies, sur Saül, sur David. Quand il fait l'onction sur Saül, Saül se met lui-même à prophétiser et à être capable de certaines choses que jusque-là, il n'envisageait pas. Et David, ça va être ça aussi, finalement. Le plus petit de sa famille, en recevant l'onction, va être capable des plus grands accomplissements. Et donc, le prophète est, comme tu le dis, celui qui reçoit pour mission d'aller au-devant de quelqu'un pour apporter un message, pour réaliser quelque chose, qui va permettre à la personne qui en bénéficie d'avoir une vie plus grande, disons, hein, au sens de ça croît, ça grandit. Ouais.
Alors, est-ce que c'est une notion qui existe toujours ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours ? C'est très familier dans tout l'Ancien Testament, la notion prophète, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prophétiserait, on dirait, c'est des illuminés. On a l'impression que c'est tout quelque chose qui est utilisé dans la spiritualité.
C'est vrai, en tout cas, pas de façon très explicite. Mais à vrai dire, au moment des baptêmes, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. C'est-à-dire que une bénédiction sur un enfant de quelques semaines ou de quelques mois, lui disant qu'il est appelé à vivre de grandes choses et de belles choses, c'est un peu la limite entre la prophétie et le propos tenu par un illuminé. Parce que de nos jours, dire à un bébé qu'il va pouvoir éprouver des choses splendides, c'est soit avoir une connaissance de l'avenir un peu ésotérique, soit être un joyeux de riz, quoi, finalement. Donc je pense qu'il y a là quelque chose de prophétique, en ce sens que, justement, notre lucidité nous permet de voir que face à un monde qui peut sembler un peu brutal, un peu barbare, un peu désordonné, qui peut dévorer ses habitants, en fait, nous avons les capacités, non seulement pour pouvoir tenir bon, mais aussi pour participer à une forme d'harmonie de vie, pour rendre le monde fréquentable. Et c'est parce qu'on le voit encore aujourd'hui parmi nous et que ça s'inscrit dans cette dynamique, au fond. Donc le prophète, c'est vrai qu'on ne parle plus vraiment de prophète de nos jours de façon explicite, mais il y a quand même des actes prophétiques qui sont... Je veux dire, Martin Luther King, si ce n'est pas de l'ordre de la prophétie. Et pas simplement quand il dit je fais le rêve qu'un jour, etc. Ça, c'est un peu de la prédiction. Mais de dire que... Oui, aujourd'hui, un mouvement non violent peut permettre de faire émerger des droits civiques pour tous les Américains. C'est prophétique, en fait. Donald Der Camara, dans son registre, c'était pareil. Enfin, voilà, il y a quelques prophètes comme ça qui ont eu un grand retentissement, mais je crois qu'à notre échelle micro, il y a des choses qui sont tout à fait prophétiques, en fait. L'éducation des enfants relève de la prophétie. En fait, on balise le terrain des enfants quand on leur explique un peu à quelle sauce ils peuvent ne pas être mangés. Par exemple. Le verset 11, c'est ce qui nous donne la clé d'interprétation. Pour bien voir que c'est une métaphore et que ça ne s'est pas passé comme ça. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, en fait, c'est toute la maison d'Israël. Ouais. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et au fond, on a là la clé. C'est la clé, c'est l'espérance, en fait. Et créer, en fait, c'est... Oui, alors juste, il faut quand même que je vous précise. Nous sommes perdus, c'est pas nous sommes perdus, c'est nous sommes retranchés. C'est le verbe couper. Ouais. C'est Gadzar. Nous sommes retranchés, nous sommes coupés de la vie, nous sommes coupés de la création, du reste du monde. Et donc... Créer, c'est au fond donner de l'espérance en renouant ce qui a été coupé. Et après, d'ailleurs, on va voir une image, c'est de prendre deux morceaux d'eau et de les rapprocher pour reconstituer le peuple. Voilà. je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et là, c'est Adama Israël, c'est pas Eretz Israël. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ça veut dire que l'acte ici n'est pas un acte politique, c'est un acte vraiment existentiel. C'est-à-dire Adama Israël comme le lieu où l'être humain peut se tenir et se tenir devant Dieu. Il ne s'agit pas d'organiser un état particulier, il s'agit de pouvoir permettre à des individus de se tenir. À un moment donné, tous se relèvent, voilà. Ils se tiennent sur leurs pattes. Voilà. Il nous reste un petit peu de temps pour voir le passage de Marc. Je vous lis, après je vous l'explique un petit peu. Ils se rendirent à Bethsaïda, donc c'est avec les disciples Jésus. On amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, en fait il lui cracha sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Phrase étonnante, il regarda et il dit « J'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Donc, voici un aveugle. Un aveugle, c'est en tout cas quelqu'un qui ne voit pas. Soit c'est une cécité d'ordre physiologique, pourquoi pas, soit c'est une cécité comme celle dont je vous ai affublé lorsque vous avez ouvert la porte de la chambre de cet enfant, de cet adolescent. Vous n'avez rien vu, quoi. Enfin, c'était tellement le bazar, voilà, tout est mélangé, tout est confus, vous voyez, une sorte de confusion. C'est peut-être ça. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas au sens où il ne discerne pas ce qu'il y a autour de lui. Il n'y a rien que du tohu-bohu, peut-être, c'est une hypothèse. C'est celle que je formule et je l'atteste. Verset suivant, Jésus prit l'aveugle par la main. Eh bien, regardez au-dessus, « La main de l'Éternel fut sur moi », Ézéchiel 37, verset 1. « Et l'Éternel me transporta en esprit. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il le fit sortir. » Et c'est exactement pareil, en fait, il ne le transporte pas en esprit, je vous avais dit, il le fait sortir en esprit. Et bien là, il le fait sortir aussi. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a de l'esprit ? Ah ben oui, il y a de l'esprit, parce que donc il lui crache sur la figure et il lui impose les mains, ce qui est le geste même du don de l'esprit. L'imposition des mains, c'est le geste de bénédiction comme ça, c'est en fait communiquer l'esprit. La bénédiction finale ou l'imposition des mains sur un enfant au moment du baptême, c'est le baptême d'eau, ok, mais c'est aussi le baptême d'esprit de Jésus. Donc, on a exactement une configuration propre à Ézéchiel 37 et qui déjà utilisait le vocabulaire de la création. Et alors, il sera à nouveau question de l'esprit parce qu'il remet à nouveau les mains sur les yeux au verset 25, mais au fond, la clé d'interprétation... C'est le verset 24. C'est un verset tellement énigmatique qu'on ne le comprend que très rarement. Et en fait, je pense qu'il est extrêmement explicite dans ce contexte. Il regarde, il dit « Je vois les hommes, mais comme des arbres qui marchent. Pourquoi » Pourquoi ? Comme ça. Parce que, oui, c'est vrai. Eh bien, il me semble qu'il y a là un très beau clin d'œil finalement au récit de création du livre de la Genèse, c'est-à-dire que cet homme, qu'est-ce qu'il expérimente ? Eh bien, il expérimente ce qu'a expérimenté Adam, le premier homme. C'est-à-dire que son vis-à-vis, c'est un arbre. Et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que le terme, c'est enable pain, donc c'est regarder de bas en haut. Vous voyez ? Il remonte des racines vers la cime quasiment. Comme quand on est devant un arbre, finalement, ou devant la tour Eiffel. Bon. C'est intéressant parce que c'est une expérience primordiale qui est racontée ici. Au fond, ce qui est disponible pour cet homme, c'est l'expérience qu'Adam fit, et il avait en face de lui quelque chose qui lui ressemblait un peu, mais qui n'était pas tout à fait lui, c'est l'arbre. Et je vous disais, ce qui est intéressant dans Adam, c'est que c'est Adama, Donc c'est le lien entre l'homme et le sol, il y a une solidarité. On est de la même matière, de la même poussière. Et c'est vrai notamment à travers cette histoire de l'arbre. Et finalement, l'arbre, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est celui qui joue un véritable effet miroir. Parce que l'arbre, comme l'homme, plonge ses racines dans la terre où sont enterrés ses anciens. Il se tient sur le sol et lance ses bras vers le ciel, qu'il balaye et où il porte du fruit. Donc, l'arbre est non seulement un rappel de l'expérience d'Adam, mais c'est aussi une très belle métaphore de ce qu'est l'homme.
Est-ce que je peux vous poser une question ? Comment traduit-on le sang en
hébreu ? Dame.
Dame. Et c'est toujours un rapport avec Adam, Adam.
C'est pas impossible. Mais après, c'est une libre interprétation du texte. Mais c'est très plausible. Si on voulait aller dans son sens, Adam, ça serait le premier son, en quelque sorte. Hein. Parce que A, Aleph, c'est la première lettre. Ou c'est 1 aussi. Peut-être. Possible. Oui, on peut penser là-dessus. Ouais. On finit avec le psaume 104. On finit, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment le temps. Oui.
Le nôtre pas au village.
Oui. Bah, c'est-à-dire que c'est bizarre parce qu'à la fois c'est va chez toi mais pas au village.
Ça veut dire ne.
Ah, c'est ne pas retourner.
À vrai dire, j'ai pas d'idée bien formée sur cette question. C'est dans l'évangile de Marc. Alors on peut se dire, c'est dans la perspective du « c'est le secret messianique, il ne faut pas en parler voilà, ». Garde ça pour toi, c'est possible. D'un autre côté, souvent il est dit « n'en parle à personne », et là c'est pas aussi explicite, c'est plus allusif. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça pourrait faire allusion, mais peut-être que si, je ne vois pas bien quoi en fait.
À retourner à ce dont on est sorti, peut-être.
Alors là, le verbe, ce n'est pas retourner, non. C'est entrer. Hein, c'est eiser komai, c'est aller jusque dans. Donc vous voyez, il n'y a pas l'idée selon laquelle on retournerait sur ses pas, comme la femme de Lot qui se retourne, etc., et ça serait mal. À explorer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'évangile de Marc, s'il refuse la publicité, c'est parce qu'il ne veut pas que la foi soit fondée sur les miracles, c'est-à-dire sur la rumeur. Il faut que ce soit une expérience personnelle. Et pas simplement « je choisis le plus fort ». Parce qu'au fond, c'était un peu le combat entre les... Voilà. Alors le psaume 104, après tout, je vous le laisse et puis vous verrez chez vous. Je vous donne juste quelques clés pour le scruter chez vous. Vous allez découvrir que ce psaume 104 reprend tous les jours de la création. Tous, ils y sont tous. Mais il y a un petit problème à un moment donné, c'est qu'il manque un passage. C'est-à-dire qu'on a bien tout, mais entre le jour 3 et 4, il y a quelque chose qui ne colle pas bien. C'est-à-dire juste au milieu du texte. Le centre du texte, c'est quelque chose qui ne va pas. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que tous les jours se déclinent, mais on a mis au milieu, en fait, le sixième jour. Donc le sixième jour est pile au milieu. Non, non. C'est qu'en fait, c'est une structure concentrique. Et voilà, c'est carrément anthropocentrique. C'est-à-dire que l'homme est au milieu. Donc les humains, les végétaux, les animaux domestiques, les oiseaux. Et au fond, c'est une façon de dire, en les mettant au milieu, qu'ils sont dans leur environnement, dans ce qui est vraiment pour eux leur cadre. Et vous verrez que l'homme se nourrit non pas des denrées qu'il trouve, mais de choses qui ont été travaillées. Le pain, et non pas simplement de la farine ou des fruits. Oui. Du vin, c'est-à-dire pas simplement des raisins. Oui. C'est-à-dire que c'est l'idée de la culture. Il y a dans ce, dans ce psaume l'idée selon laquelle l'homme est le fruit de la culture et pas simplement de la nature. Et d'ailleurs, si vous le lisez comme ça, un peu distraitement, vous allez vous dire, ben voilà, c'est un croyant qui se pose à flanc de colline, qui regarde le monde, et du coup, il voit Dieu. Voilà. Vous savez, des fois, on a ce sentiment un peu mystique. On est dans un coin vraiment joli, et on se sent en communion, et notamment en communion avec le Très-Haut. Eh bien, ce psaume dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la nature est regardée par le prisme du récit de la création. C'est-à-dire qu'on utilise le mythe de Genèse 1 comme filtre. Donc, la nature ne s'impose pas à nous, elle est observée, scrutée à travers des lunettes correctrices.
Il y a le pain, le vin, etc., qui sont nécessaires à l'équilibre. J'ai ouvert verset 29. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent.
Mm-hmm.
Et puis tu envoies ton souffle, ils sont faits. Et tu renouvelles la face de la terre. Donc c'est ça qui est le plus important que le pain ou le vin. C'est le souffle qui va
venir. Oui. Si ce n'est que. Oui, si ce n'est que là, on est plus sur le registre de l'homme. C'est que là, on est déjà passé, aux animaux sauvages. Quand on regarde la structure concentrique, on a en fait des phrases en « je », en « il » et en « tu ». Et le centre du centre, c'est les versets 10 à 19 en « il ». Et toi, tu es déjà dans la partie suivante, les versets 20 à 30 en « tu ».
20 à 30, si l'Éternel sortit, tu expires.
Oui, mais là, on ne parle plus de l'homme, en fait. C'est-à-dire que là, on est déjà dans le cinquième jour de la création. Le sixième est remis entre le troisième et le quatrième. Regarde. Versets 19 à 23, tu as les temps, les saisons, les jours et la nuit, avec l'activité des hommes et des animaux sauvages qui sont délimités. Les versets 25 et 26, c'est uniquement les poissons. Et en fait, il y a une progression comme ça. Et donc, la partie qui est propre à l'homme, effectivement, où il est question du vin, de l'huile, du pain, etc., eh ben, elle s'achève avant. Dans cette structure concentrique. Et alors, c'est l'idée selon laquelle, justement, il ne peut pas y avoir de théologie naturelle. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, il suffit de regarder le spectacle de la création pour voir Dieu. Eh bien, non, en fait, il faut passer par le récit de la création pour y comprendre quelque chose. Parce que si on regarde un coucher de soleil, ça peut être bouleversant. Surtout si on tient la main de son amoureux ou de son amoureuse. Mais ça peut être aussi extrêmement terrifiant, parce que ça peut évoquer à la fois le déclin, la disparition et tout ce qui va avec. C'est une façon de dire que la nature est ambiguë, et que pour lui donner du sens, il faut en passer par une grille d'interprétation. Et c'est ce que fait le psalmiste avec le récit de Genèse 1. C'est sa grille d'interprétation. Pour éviter... finalement, de considérer la nature comme un modèle à suivre et à reproduire. Et les textes bibliques disent qu'il ne faut jamais suivre la nature.
L'esprit est au-dessus de la nature.
L'esprit, c'est ce qui permet de rendre la nature habitable, en fait. C'est ce qui nous prémunit d'une sorte de fusion avec la nature, vous voyez. À la fois, on est de la Adama, et puis d'un côté, il y a un principe de vie qui fait qu'on n'en reste pas à la nature. On fait un pas de plus, en quelque sorte. C'est un principe dynamique. L'âme, en latin, c'est anima, au fond. C'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait qu'on n'est pas simplement quelque chose, on est aussi quelqu'un parce qu'on parcourt consciemment. Voilà. Comme l'esprit parcourt consciemment la surface. Voilà. Je vous laisse peut-être sur un abîme de perplexité, mais j'espère que l'esprit planera au-dessus de ce théorème Et la fois prochaine, on s'interrogera sur la toute-puissance ou non du divin.